Récréation sonore.
Sur Radio Campus Paris.
Histoire de malaise.
C'est quand l'automne commence à arriver.
Parce que on ne sait pas si c'était un malaise profond qui se serait manifesté à ce moment-là, ou bien.
Bonsoir, bienvenue. La radio Cousu Main pour vous ce soir est de retour. On fait notre rentrée et cette année, on vous retrouve dans Récréation Sonore, le dimanche à 19h, sur Radio Campus Paris 93.9.
Ça va, moi,
Encore qu'il faille se méfier du joli en matière de physiologie. Rouler sa chaussette est tout de même plus joli que décaloter. Encore qu'il faille se méfier du joli en matière de physiologie.
Une oreille de cochon, rue de Bussy. Une oreille de cochon, rue de Bussy. Une oreille de cochon, rue de Bussy.
Je pourrais pas dire ce qui s'est passé. J'ai absolument rien vu. Moi, j'étais de dos. Je pourrais pas dire ce qui s'est passé. J'ai absolument rien vu.
Sylvie,
moi,
pas
j'étais de dos.
Chaud,
je pourrais pas dire
souris.
Ce qui s'est passé.
Sylvie ne comprenait pas le manchot empereur mesure environ 1,22 mètres. Le manchot empereur mesure.
Peut mettre un peu plus de lumière là.
Vous l'aimez pas en fait.
Si.
Ouais. Une oreille de cochon, rue de Bussy. 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 Une oreille de cochon,
moi,
rue de Bussy.
J'étais de dos.
Une oreille de
j'ai
cochon,
absolument rien vu. Je pourrais pas dire ce qui s'est passé.
Sylvie,
moi, j'étais de dos. J'ai absolument rien vu. Je pourrais pas dire ce qui s'est passé. Moi, j'étais de dos. J'ai absolument rien vu. Je pourrais pas dire ce qui s'est passé.
Moi, je peux mettre un peu plus de lumière là.
J'étais de dos.
Ça va.
Ça vient.
Ça va.
Je pourrais pas dire ce qui s'est passé.
Moi,
j'étais de dos.
Ça va.
Ça vient. Je pourrais pas dire ce qui
Here's something for you to hear. 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 Here's something for you to hear.
Here's something. Chauve souris. Sylvie ne comprenait pas le mot chauve souris. Sylvie ne comprenait pas le mot chauve-souris. Sylvie ne comprenait pas le mot chauve-souris.
Sylvie ne pourrait pas dire ce qui s'est passé. Moi, j'étais de dos. J'ai absolument rien vu. Je ne pourrais pas dire ce qui s'est passé. Moi, j'étais de dos. J'ai absolument rien vu. Je ne pourrais pas dire ce qui s'est passé. Moi,
Une oreille de cochon rue de Bussy.
En matière de physiologie. passé. Moi, j'étais de dos, j'ai absolument rien vu. Je pourrais pas dire ce qui s'est passé. Moi, j'étais de dos, j'ai absolument rien vu. Je pourrais pas dire ce qui s'est passé. Moi, j'étais de dos, j'ai absolument rien vu. Je pourrais pas dire ce qui s'est passé.
Here's something for you to hear. Here is something for you to hear. Here's something.
Une oreille de cochon, rue de Bussy. Une oreille de cochon, rue de Bussy.
Fast. C'était donc une radio Cousumain tout en boucle dans Récréation Sonore avec Célio, Chloé, Estelle, Hélène, Joyce, Pascaline, Pauline et Seb. Les prochains enregistrements auront lieu les vendredis et samedis 11 et 12 novembre sur Paris. N'hésitez pas à vous joindre à nous en nous contactant pour les détails pratiques via Facebook ou sur radiocousumain@radiocampusparis.org. Et je précisais bien sur Paris, car ça y est, les Nantais s'y sont mis. Merci à Sandrine pour cette belle initiative et nous les diffuserons très bientôt dans Récréation Sonore sur le 93.9. En résonance avec l'actualité de cette semaine, chaude et glaciale à la fois, sans plus attendre, voici un extrait du reportage d'Emmanuel Morera, qui est producteur et animateur à Radio Grenouille et cofondateur de la revue en ligne lavimanifeste.com. Son reportage s'intitule Calais, The Jungle, 16 octobre 2016.
Mon amour, j'ai pris le train pour Calais, aller-retour. J'y suis allé pour voir cette jungle que le gouvernement veut raser. Je n'y vais pas seul.
Dans 300 mètres, prenez la deuxième sortie au rond-point, L, avenue de Calais.
Une soixantaine d'avocats convergent vers Calais pour informer les migrants de leurs droits. Mon amour, comment te dire ce que j'ai vu?
On est arrivé là.
Ouais, c'est le début. Ah ouais.
Ça, c'est hallucinant, c'est que des containers.
Là, faut donner son nom.
Alors là, on va passer par là, nous, après, mais bah, avant, on va aller se garer.
Une ville de baraques et de tentes avec ses rues, ses trottoirs, ses quartiers, son économie, ses restaurants, ses boutiques, ses habitations, ses écoles, ses lieux de culte et son belvédère.
School of Darfur.
Tu sais, ce point de vue recherché par les touristes, d'où l'on embrasse du regard l'étendue d'une ville. Des files d'attente aussi. Des files d'attente pour la distribution de nourriture. Des files d'attente pour la douche. Des files d'attente pour l'électricité. Une ville précaire, mais une ville quand bien même.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est où ?
On est à la jungle, je crois. On dirait bien.
Calais.
Il y a une route entre les magasins et les restos.
Ouais.
Si tu viens, oui. Si tu viens comme ça, à cette côté, à droite, il y a des abris derrière les restos et les magasins. En aperçant là, donc ça.
C'est entre la route des magasins et la tour, en fait.
Oui, exactement. If we're doing it till 3, then we're not even, like, it's not going to be a problem. I would say that if there's audio group there, then head, like, across the road and go to the sort of, like, Ethiopian Eritreani bit, just, like, on the other side of that.
Excusez-moi. C'est une radio à Marseille qui s'appelle Radio Grenouille. Oui. Qu'est-ce qu'il écrit sur votre t-shirt?
Il est écrit Refugee Lawyer. On a décidé de parler anglais, on est avocat pour les réfugiés. Pour certains d'entre nous, c'est notre travail quotidien. Et puis, pour beaucoup des 60 avocats qui sont là, c'est un week-end d'avocats pour les réfugiés. On va passer notre week-end à les aider.
Vous avez donné un nom à cette opération ?
C'est l'opération Jungle Lawyers. On intervient pour la première fois dans la jungle. C'est un magistrat que j'aimais bien appeler Calais une zone de non-droit. Et on est là. Si on fait rentrer 60 avocats pendant 2 jours, on se dit que la zone de non-droit, peut-être qu'elle sera plus juridique après notre passage qu'avant.
C'est ce qui se passe là, il y a une soixantaine d'avocats.
Une soixantaine d'avocats et surtout, il y a autant de bénévoles, de membres d'associations qui sont à nos côtés pour nous aider et dans les jours qui viennent, prendre le relais. Prendre le relais, ça veut dire faire le travail de juriste qu'on accomplit aujourd'hui et qu'on ne sait pas faire sur la durée et que les associations, elles, peuvent faire sur la durée.
Et donc là, vous informez les étrangers là, ici de leurs droits?
Oui, les droits ils sont multiples, mais comme ils se préparent des opérations massives en direction des CAO pour les volontaires et en direction des commissariats pour les réfractaires, on a décidé d'aider les gens, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, en commissariat ou en CAO.
C'est quoi un CAO ?
Un CAO, c'est un centre d'accueil et d'orientation. C'est une invention du gouvernement qui remonte à 1 an. Et depuis 1 an, on a constaté que ça fonctionnait mal, très mal. Extrêmement mal, quelquefois bien. Et on a décidé d'améliorer les choses. C'est un travail des associations qui ont voulu donner au CAO l'outil pour passer le relais, pour avoir le maximum d'informations sur l'exilé, sur la procédure, avoir des juristes à qui s'adresser.
Mais ce CAO, ça correspond juridiquement, ça correspond à quoi ?
C'est une mise à un hébergement. C'est un hébergement où ils ont des personnes qu'ils peuvent rencontrer, qui leur donneront des conseils pour la suite de leur vie, en France, ailleurs.
Vous êtes optimiste ?
Quand on se prépare une opération qui concerne plusieurs milliers de personnes, il n'y a pas de quoi être optimiste. Et vu les expériences qu'on a eues sur la jungle de Calais, non, il n'y a pas de raison d'être particulièrement optimiste. Et comme on est d'un naturel pessimiste pour certains d'entre nous, on prépare. On veut que ça se passe le mieux possible, donc on veut être là.
Ça fait longtemps que vous venez ici ?
Ça fait 2 ans que je travaille sur Calais. Mais je travaille uniquement en droit des étrangers.
Mais vous vivez comment ?
De manière très curieuse, on est essentiellement payé par l'État qui est notre adversaire. Il vaut mieux d'ailleurs gagner les procès, parce que quand on gagne les procès, c'est l'État qui est condamné à payer les frais d'avocat. Donc si on est bon, on gagne sa vie normalement, et si on est mauvais, ben au moins on essaie d'aider.
Votre prénom ?
Norbert.
Merci Norbert. On est où Anna ?
À Calais, dans la jungle, à côté de Calais.
Il est entré par la route des dunes. C'est le 16 octobre 2016, il est 11h.
Si on se souvient bien, il y avait 10 endroits différents jusqu'à fin mars 2015. Hein, c'était, il y avait 3 squats, il y avait Galou, il y avait une petite maison rue Jules Verne, je crois, avec des jeunes, et il y avait la maison des femmes, mais qui avait ou qui était en train de se transformer en logement officiel pour les femmes. C'était route de Saint-Omer. Ouais. Il y avait 3 halls de bâtiments. Il y avait l'église, nous on dit l'église Saint-Pierre, ouais, mais ouais, sur près du port. Il y avait le hangar Paul Devaux. Et il y avait le BCMO qui donnait sur la place de Flandre, un bâtiment aussi avec un hall où il y avait des Soudanais. Et il y avait 4 jungles. Il y avait Leader Price près du tunnel. Il y avait la jungle de Marc dans un bois humide sur la commune de Marc par ici. Et il y avait Thioxide. Sur la rue des Garennes et en face le bois du Brûle. En fait, fin mars 2015, donc, le gouvernement a donné l'ordre à tout le monde de partir, sachant que les gens sont partis soit spontanément en avril, soit ils ont été chassés dans les mois qui suivent quand ils sont restés, de Galou, tout ça, ils ont été chassés par la police. Je crois qu'en juillet 2015, c'était fini, il n'y avait plus personne en ville. Donc au départ, moi j'ai installé avec des Pakistanais les premières tentes sur le camp. Donc il y a 1200 personnes qui sont installées en un mois. On a ramé comme des fous parce que tout le matériel qu'ils avaient était en très mauvais état ou presque. Enfin je veux dire, il fallait remplacer tout quoi, les tentes, les duvets, les... Voilà, donc on a travaillé beaucoup avec Emmaüs à l'époque. Je dis on, c'est Salam, l'auberge des migrants, Emmaüs et le Secours catholique. On a vraiment travaillé ensemble pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois pour installer les gens, donc les premiers 1000 et ensuite tous les autres au fur et à mesure qu'ils arrivaient.
Ton prénom ?
François. Moi j'habite près de Calais, ouais, tout près de Calais. Donc il y a à peu près 1000 personnes qui s'installent et il y en a 3000 en juin. D'un coup, la population du camp diminue brutalement. On se dit merde, tous les jours on vient, il y a moins de monde, etc. Les migrants avaient trouvé un nouveau moyen de passer au tunnel, en montant sur la navette quand elle démarre de la gare. Mais le Figaro titre 2000 migrants à l'assaut du tunnel. Premier effet, le gouvernement, qui sans doute savait que ça passait, mais là, il est obligé d'agir. Du coup, Cazeneuve déboule et c'est plus de policiers, plus de grilles, plus de chiens, plus de caméras, etc. C'est le début de la fortification de Calais. Juillet 2015, tous les médias du monde débarquent, hein, et surtout les Britanniques, mais tout le monde, hein, tous les médias français. Du coup, on a vu entre 200 et 300 équipes de médias radio, journaux, presse internet, enfin tout ce que vous voulez. Alors là, c'est la pagaille. Pendant trois mois, arrivés improvisés de fourgons remplis de vêtements non triés, des gens qui arrivent avec de la bouffe, il y a des tas de vêtements parce que c'est pas trié, les gens y trient, il y a des feux, on met le feu le soir parce qu'il y a un tas de vêtements qui servent à rien.
C'est là où on commence à avoir énormément de bénévoles.
Voilà.
Qui arrivent d'Angleterre, Belgique, exactement. France.
Plein de bénévoles, plein de donations et même de l'argent. Bon, bah nous on prend parce qu'en fait, je dis on, c'est l'auberge des migrants, on décide nous de travailler avec les Britanniques. C'est-à-dire que plutôt que de continuer le bordel, on dit bah voilà, nous on va vous aider, on va animer les bénévoles, on va trouver des locaux. Donc on a trouvé d'abord des conteneurs, ensuite un bâtiment à Jules Ferry, ensuite 1000 mètres carrés, trop petit, on est passé à 3000 mètres carrés. Donc une logistique, des fourgons et de l'organisation du travail des bénévoles. Si bien qu'en octobre-novembre, la situation a commencé à se normaliser. Entre-temps, le Secours catholique a commencé à construire des cabanes. Et nous, on a suivi. On a construit à peu près 1500 cabanes en bois. Et à la fin de l'hiver 2015-2016, il n'y avait plus personne sous la tente. Tout le monde avait une caravane ou un abri en bois avec un petit cadenas pour fermer, etc.
Vous êtes en train de remplir des jerrycans d'eau, c'est ça ?
En fait, c'est pour remplir des grosses réserves de flotte pour le cas d'incendie, ce
qu'il y a des gros risques d'incendie pour les prochains jours. Donc la police doit évacuer, expulsion des restos et tous les petits magasins. Donc du coup, il y a un peu la peur de feu et toutes les conséquences. Donc on essaye de prévenir. Après, il y a des extincteurs aussi un peu partout. Donc, ouais, c'est très inflammable comme ville. Il faut prévenir un peu.
L'été 2015, c'est la phase où le camp de toile de juin-juillet se transforme en ville, en bidonville. Hein, les gens du Pérou ont analysé ça mieux que moi, Cyril Hanap aussi, tout ça. En fait, ça devient une ville. Pourquoi ? Parce que ça construit. Et aussi parce qu'il y a des échoppes qui s'ouvrent, des restaurants, des artistes aussi, des architectes. Il y a des gens qui construisent des machins un peu intéressants ici ou là. Il y a même des réfugiés qui commencent à faire des choses passionnantes comme la Maison Bleue sur la colline, les écoles qui s'ouvrent, les mosquées qui s'ouvrent, Zimako qui fait son école laïque du chemin des dunes, la Bulle aussi, il y avait un dôme amené par les Anglais, du théâtre, du cinéma. Enfin vraiment, c'est la période avec du recul la plus passionnante de la jungle.
Et cette période dont tu parles, elle est terminée?
Alors voilà, le gouvernement voit ça d'un mauvais œil et tout le monde voit ça d'un mauvais œil. Une ville qui se crée, une ville qui naît, des courants de solidarité qui se créent entre les réfugiés et les bénévoles, des réfugiés qui prennent l'initiative, les restaurants, les épiceries. À un moment donné, il y a au moins 400 emplois ici qui sont créés sur le...
400 emplois?
Ah ouais, entre les restaurants, les hammams, les coiffeurs, etc. Le gouvernement casse ça. Alors en plusieurs phases. La première, c'est la destruction de la bande des 100 mètres. Donc déjà, on détruit des abris. La deuxième, c'est la démolition de la partie sud. C'est mars 2016. Et la troisième, c'est juillet 2016, la fermeture des restaurants, des épiceries ici. Et la phase maintenant qui vient, c'est la destruction de ce camp. Avec une énorme ambiguïté, c'est qu'au départ, il a été question de détruire le bidonville. Et quand Hollande est venu, la décision, apparemment, elle n'a jamais été démentie, c'est tout fermé, tout détruire. Plus de camps dans le Nord-Pas-de-Calais, plus de Jules Ferry, plus de CAP, plus de camps à Grande-Synthe. On fait le vide. Voilà ces trois phases, hein, ce camp de tente qui se constitue, la ville qui se crée, et puis la démolition de la ville. Parce qu'en fait, quand le gouvernement a détruit la partie sud, il a cassé vraiment l'énergie des gens. Parce que avant, on avait dit aux migrants, vous pouvez rester là pour un temps indéterminé. Donc les gens, ils sont projetés sur un avenir, même à court terme, mais un avenir ici. Ils ont construit, ils ont créé des restaurants, etc. Puis d'un coup, on leur dit, ben non, vous ne pourrez pas rester là. Demain, vous ne pourrez pas rester là. On détruit le sud et on va détruire le nord. Du coup, bon, l'énergie, elle a baissé. Et il y a eu des choses qui sont ouvertes après, mais pas au même rythme. Pas du tout de la même façon. Quoi.
C'est-à-dire que la partie sud, c'était la partie la plus vivante. La plus vivante.
Ah oui, elle était la plus peuplée aussi. Hein. Pour nous, il y avait à peu près 3500 personnes. Le gouvernement il disait 800 à 1000, hein, mais bon. Et ici, il y avait 1000 à 1200 habitants, pas plus, sur la partie nord. Il y a eu une tentative de notre part de bloquer la destruction du bidonville sud. La seule chose qu'on a obtenue, c'est le maintien des lieux de vie, mais dont une partie est partie après en fumée. On ne sait pas vraiment qui en est responsable. Des gamins excités ici, l'extrême droite, la police elle-même, on ne sait pas. Et contre, non pas la fermeture, elle était déjà faite, contre la destruction ici des restaurants et des échoppes. Là, on a gagné au tribunal administratif, mais on a perdu récemment.
Sur quel argument vous avez gagné ?
On a gagné sur l'argument tout à fait juste, qui était que ces restaurants ne faisaient pas que vendre, ils donnaient aussi, parce que dans ces pays-là, que ce soit l'Afrique de l'Est ou le Moyen-Orient, on ne laisse pas les gens mourir de faim. Donc ils vendaient des repas, beaucoup aux bénévoles, mais ils en donnaient. Et aussi, surtout, ça servait d'abri quand il pleut, de lieu de convivialité, d'école, quelquefois même. Et il y avait notamment le Kids Café qui servait spécifiquement à protéger les gamins. Donc, et nos arguments ont été entendus, puis en cassation, je pense que j'étais pas là, mais le gouvernement a dû dire, vous savez, tout va disparaître, donc pourquoi
Tout à l'heure, quand tu as dit qu'il y avait 400 emplois là, ici, est-ce que pour le coup aussi, tu as rencontré des migrants qui finalement se disaient, bah, on peut peut-être rester là. Finalement, il y a une petite activité, j'ai un petit commerce, je vais peut-être rester là.
Bien sûr, notamment des gens qui ont deux catégories, des gens qui ont été déboutés du droit d'asile, donc de toute façon savent qu'ils n'ont aucune chance de pouvoir rester légalement, et soit des gens qui ont des papiers, qui avaient des papiers, mais qui n'ont pas de boulot, qui n'arrivent pas à déclencher les aides sociales, ou ne veulent pas, parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent pas vivre du RSA ou autre, et qui ont effectivement ouvert un petit restaurant, une petite épicerie ici. Voilà, pour 400, 500 personnes peut-être, c'était une activité qui leur permettait d'envisager de rester, tout à fait.
Est-ce que tu peux nous dire quand même là où on est, là où on discute là ?
Ben écoute, on est dans un endroit charmant, au bord d'un étang. Il n'y a pas de pêcheurs aujourd'hui, tiens, parce qu'il y a plein de poissons dans cet étang. On est sur dans l'arrière-boutique d'un petit restaurant.
Chez Samy, je crois.
Ouais, chez Samy, qui continue à essayer de fonctionner malgré la fermeture administrative. C'est-à-dire que ici, ça fonctionne au ralenti. Ça risque de s'arrêter parce que comme la justice a donné droit à l'État de détruire les restaurants, on s'attend à ce que la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du 17 octobre, avant l'évacuation proprement dit du camp, ces restaurants soient détruits, histoire que le gouvernement montre ses muscles.
Toi, dans quel restaurant tu es allé ?
Oh,
quand
moi,
tu manges le midi, par exemple.
J'en ai fréquenté pas mal. Hein. D'ailleurs, je dois dire officiellement et solennellement que je n'ai jamais été malade, hein, parce qu'on a prétexté des raisons sanitaires de fermer les restaurants, mais il n'y a jamais personne qui était malade ici. De toute façon, la cuisine, il n'y a pas de frigo ou il n'y en a pas beaucoup. La cuisine du Moyen-Orient ou de l'Afrique, on cuit, on recuit, hein, donc il n'y a pas de problème.
Alors lesquels, par exemple ?
Tu veux que je te dise les meilleurs restaurants ? Ouais. Moi, j'allais aux Trois Idiots. C'était un restaurant créé par trois Pakistanais qui, par dérision, s'était appelé les Trois Idiots. Et il était très fréquenté par les bénévoles parce que c'était un endroit où l'accueil était assez chaleureux. La bouffe, c'était pas la meilleure du camp, mais c'était une bonne bouffe quand même. Et voilà, et c'était un endroit très sympa. Il n'y a plus cette vie-là maintenant. Regardez là où on est. Bon, c'est un peu mort, quoi.
À l'époque où c'était vif, là, tu as cru à la possibilité d'une ville ?
Écoute, pour être sincère, pas vraiment, parce qu'on a toujours le gouvernement, on n'a jamais pensé que le gouvernement accepterait ça. Mais bon, on rêvait un peu, on a rêvé avec le Pérou qui a fait sa
pôle d'exploration des ressources urbaines.
Voilà, exactement, qui a fait son projet en disant voilà, il y a une dynamique, une énergie, et transformons ça en construisons et transformons ça en ville. Et on pouvait, hein. J'avais pris des paris que si le gouvernement ne faisait rien, il y avait des gens qui allaient commencer à construire en dur, à rentrer des parpaings et du béton. Et puis, ils étaient partis de quelques exemples en montrant que si on développait ça, il allait y avoir de l'emploi, de l'activité et qu'on allait en fait dynamiser Calais et améliorer l'image de Calais, pour le coup, de cette façon-là. Et c'est vrai que c'était un peu un rêve.
J'ai lu tous à la suite, comme ça. Anar of Kudahar, le Kaboul Café, Afghan Chicken Soup, Kako Shop, Hair Salon, Hamid Karzai Restaurant, New Kabul Restaurant, Peace Restaurant, Zazai Shok Yan, Kabul Sky Shop, Afghan Friend Shop, Tiger Shop, Afridis Shop, Mosquée, Sunshine Restaurant, Baglan Shop, Love Peace, London Bread, Khan's Shop, Tasty Land, Restaurant of Abdullah et Arif Khan, Sami, Bismillah, White Mountain, Welcome Restaurant, Kids Cafe Jungle Books, Kid Restaurant Free Food, Mia Tandoori, Ariana Restaurant, Kurasan Restaurant, Hair Cutting, Afghan Naan Shop, Milkshake, Passion Liberté Légèreté.
Toi, tu as connu l'époque où il y avait une grande errance des migrants, justement, après fermeture Sangatte, dans la ville de Calais, genre de choses. Est-ce que tu penses que c'est ce retour-là aussi qui va avoir lieu, c'est cette, le retour de cette situation-là?
Moi, je n'ai pas connu cette période-là. J'ai commencé à travailler avec l'auberge en janvier 2014 et j'ai connu la destruction de deux petits camps en ville où les gens, effectivement, sont partis se planquer ici ou là. Et donc, nous, on allait aider l'un ou l'autre ici ou là. Et puis, les flics arrivaient, les chassaient, déchiraient leurs tentes, embarquaient les affaires, etc. J'ai connu cette chasse aux migrants que réclame Madame Bouchard aujourd'hui. Mais j'ai aimé l'expérience aussi des autres personnes ici, des autres assos, nous fait dire que de toute façon ça va recommencer.
Ça va recommencer.
Bien sûr. De toute façon, on discute avec les migrants, ils nous disent soit je vais me cacher, soit je vais me planquer à Paris pour quelques semaines et je reviens, soit je change mon projet, mais ils vont aller en Belgique ou en Allemagne et ils vont peut-être revenir, soit je monte dans les bus, je vais dans les CAO et dans quelques semaines je reviens quand ça sera calmé. Et nous, on se prépare sur le plan logistique. Mais on va être très emmerdé par la police, on s'attend à une repénalisation des choses, on s'attend même à ce que nos fourgons soient saisis pour des prétextes divers. Nous, on se prépare sur le plan logistique à aider des gens qui sont ici ou là, dans des petits camps, etc. Et on peut aussi rajouter que les passeurs probablement encouragent les gens à rester, donc on va devenir complices des passeurs, nous. Et aussi qu'il y a même des gens qui ont payé leurs passeurs et qui n'ont pas envie de partir sans que leur paiement se transforme en passage.
Qu'est-ce que ça change, la construction du mur ?
Rien du tout. C'est juste un symbole supplémentaire de la fermeture des frontières, du repli sur soi, l'entrave à la liberté de circulation. C'est un mur complètement stupide. Les incursions sur l'autoroute, elles se font là, mais elles se font aussi ailleurs. Il faudrait construire un mur jusqu'à Dunkerque d'un côté, jusqu'à Boulogne de l'autre, pour empêcher les gens d'entrer sur l'autoroute. Mais ils trouveront encore le moyen de passer. De toute façon, on sait qu'aucun mur, même le mur de Berlin, il y a des gens arrivés à passer. Aucun mur n'est vraiment étanche, pour deux raisons. La volonté des gens de passer et le travail des passeurs. Parce que plus vous mettez d'obstacles, plus c'est lucratif, plus les tarifs augmentent et plus les passeurs déploient des trésors d'imagination pour faire passer les gens.
Et puis il y a l'État. L'État qui tente de s'y imposer avec son quartier ultra sécurisé. Interdit aux visiteurs, fait du container, coupé de la ville. Fait pour que la ville n'y entre pas, fait pour que la ville n'y soit pas possible, fait pour que la ville se réduise au sommeil. L'État encore, avec sa rationalisation administrative, faite pour décourager. À Calais, mon amour, l'État veut tuer la vie. C'est son obsession. Et la vie ici, c'est la ville. Alors, après l'avoir asphyxié avec ses checkpoints, sa juridiction administrative, il veut maintenant la raser au bulldozer. Chasser les habitants, les disperser. Mon amour, les muscles de l'État, c'est toujours une machine à tuer, à détruire. À midi, après le repas, je me suis laissé aller à la sieste, dans un de ces nombreux restaurants, faits aussi bien pour manger, s'abriter de la pluie ou dormir. Et l'après-midi, nous sommes allés à la plage. C'est à quelques mètres, en bordure de la ville. Le long de ce qu'il faut bien appeler une frontière militarisée. La plage, cet horizon cruel qui nous fait refluer vers la jungle. La jungle, cette ville improvisée, coincée entre la mer et les barbelés. Calais aurait pu être un port, mais c'est un camp. Un camp, mais une ville quand bien même. La frontière ici est terrifiante. Deux hautes barrières surmontées par des barbelés militaires. Des miradors ultramodernes. Une compagnie de CRS à demeure. Et l'autoroute.
C'était un extrait de Calais, The Jungle, 16 octobre 2016 d'Emmanuel Morera. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur Radio Grenouille ou sur lavimanifeste.com où je vous encourage à aller fureter pour découvrir ces pièces sonores. La semaine dernière, faute de temps, nous n'avons pas pu diffuser celle que le Brutagène avait invitée sur sa carte blanche consacrée aux radios de lutte. Adam et Star, 9 et 12 ans, ont appris à faire de la radio dans le camp de réfugiés à Calais avec Cathy, une journaliste radio irlandaise, et Ciaran, un photojournaliste anglais. Voici un mix de Jungala Radio, la radio de la non-jungle, parce que comme le souligne Star, la jungle, c'est là où vivent les animaux, et nous ne sommes pas des animaux.
Give you news from day to day. Try to make fun into your stay. And bring you joy until the way you go. Welcome on Jungla Radio.
This is the first radio program of Jungla Radio. This is an interview about 2016 in jungle.
Welcome to Hope Show. This is part one of my first show from Calais Jungle.
Hey, I am Alpha. I am on the Blue House and I'm listening music on direct on radio, Jungla Radio at Blue House on the Hill. Hey, je suis Alpha. Je suis dans la Maison Bleue sur la colline et j'écoute la musique sur la radio, Jungla Radio, dans la jungle de Calais. Allez, c'est parti. Clap your hand.
What is Jungla Radio?
It's a process that's talking about jungle and how people live in the jungle and what is their problem and from what things they are happy in the jungle.
What does radio mean to you and what do you learn from radio?
Radio is like gives me something to do here in this boring days. And also I learn how to make the programs, how to be in a group, and what is the rules of groups, how to interview someone, and we know about recorder, how to record.
How does radio help refugee?
The refugees has the problems that it can't also, sometimes the government can't listen it. So the refugees' voice can reach the government and also the people know, can listen to this interviews and these programs and know that how hard is living in the jungle. What is Jungla Radio?
Jungla Radio is a program that made from Kitty and Karen and it's a big group that working and talking about jungle.
How does radio help refugees in the camp?
The radio help like everyone that talking in radio and the Europe can listen to them to the refugee and know about their problems.
What have you learned in Jungla Radio?
I learned how to make a program and how to edit, how to talk with the people. And I learned how to interview the people and how to make a group.
Now there's a fire and the police use tear gas for people. There's a lot of tear gas that police is using. And we are going to have a look. The people is all running above the jungle and this is all about eviction. Can you see what is going on there?
Yes, as you see, lots of police are on the way. You know, they put tear gas on people's faces and they burn, they put, set a fire on down there and then don't let people to go outside and they don't let people to get in. So it's more violence, as you can see. Look, the smoke is going and they burn lots of places and they want to people to leave their shelter and once you leave the shelter and they're going to destroy it straight away.
What do you think about this matter?
We don't know. Everybody's confused where to go and what will happen. So they use their power to the end and so we actually don't know what's going on, what will happen.
Thank you.
You're welcome.
Now we are leaving back to the radio station. It was very dangerous and they are using tear gas on people. So the people was very afraid from their gas and they were just run away. Now we're going back. I think they don't give the people any other solution. So the people are just going to leave. Thank you. Thank you for listening. Until the next show.
Welcome, Khosha Mabed, Ahlan Sahlan, Ajabama, Khiraglas, Dehan Mutsu.
Welcome to the Star Show. We have important news update from inside the jungle. Our reporter will tell us what's going on into the jungle. Today is 4 days of eviction, and we have important news, and we are going around to asking people what's going on into the jungle, and we are walking to take interview and see what's happening, what's the news. So follow me, guys. Can you introduce yourself, please?
My name's Nell. I work at the Ashram Kitchen in the jungle.
And what's going on now in Ashram Kitchen? Why the police are standing there?
Because they're starting to evict the Kurdish community who live around us. So they are just starting now to take down the Kurdish restaurant and I think soon the homes. Some people, they say maybe they come to Ashram Kitchen, but we don't know.
And what do you feel about the destroying the jungle?
Pretty mixed. I think the jungle isn't a great place, but people need somewhere to go. You can't just take down their homes and give them nowhere to go. So this week has been very sad, and yeah, it's just incredibly sad, really.
Thank you. Hello, can you introduce yourself, please?
Hello, my name's Ian Wood. I'm the founder of Ashram Kitchen.
Can you say what's going on now in Ashram Kitchen and what's going on in jungle?
We're making tea and feeding people, as we came here to do 5 months ago. And the police are flattening the houses around us, but people still come and eat, and we're still here. We're going to be here as long as we can to make people chai and food for people.
What do you feel about this situation?
The situation, I think it's terrible because there's so much work gone in to make this a place to live, for people to live. And I think the government's being really stupid. And where is everyone going to go? They're all going to end up in the hedges and it's going to be terrible and horrible. And at least in the jungle, the volunteers could help make some society and some culture and to treat people with respect as human beings on this planet, that we're all equal.
Thank you. So now we are in Ashram Kitchen, and we know that near the Ashram Kitchen is the homes are they are destroying the home, but still the people are there eating and drinking chai. And that's all until the next show. Bye!
Welcome to Adam Show on Jungler Radio. Today we went to speak with the Iranian men who are protesting the destruction of the jungle by sewing their lips shut. Before we spoke with them, they told us that their objection is with the British government because they have not listened to the refugees of the jungle. They said, "With our one mouth we have spoken 100 times and have not been heard." Well, the British government listen to us with our mouths soon shut.
We had a short interview because they can't talk. They had pain in their lips. Salam alaikum.
Salam alaikum.
Ismeton chist?
Ismam Muhammad Reza Ali Khanzadas.
Shoma baraye chi dahanayton
Why have you sealed your lips and you don't want to eat?
Because the French government are destroying that jungle, and because we want to be able to go to England, we do this for all people in the jungle.
What do you hope from English government?
We want the British government to help us, and we want help and support from the British people.
In this situation, you are living without your family alone in the jungle. What is your message for British government?
I want to say to them, they should come and live here for one night, for from their family can they imagine how hard it is to live here.
The men with the sewn lips were leading the demonstration. They had signs and flowers. The signs said things like, "We are the human right and no person is illegal." There were some children who tried to give flowers to the police. Police wouldn't take the flowers and
deaths made some of the people cry. The protests happened peacefully, but the police ignored the refugee and continued to destroy their home.
Vous retrouverez Djungala Radio sur SoundCloud ou sur leur site djungalaradio.com. À noter que le Bruitagène a mis en ligne sur son site leur passage sur Radio Cayenne. Récréation sonore, c'est fini pour aujourd'hui. Dimanche prochain, nous vous proposerons Dallas de Benjamin Bibas et Sébastien Lecordier. En attendant, bonne semaine.
Bon voilà, là je suis chez ma maman Chantal et je viens de descendre les escaliers de ma maison. Now I am in my house, my mom's house, and I am going on the escalator. Yes, see you on a little bit to see my mom, to talk to her about our radio, Djungala Radio. Hello, bonjour chérie. Bon, il paraît que tu fais du MasterChef. Aujourd'hui, tu vas cuisiner. Bon, on se retrouve avec maman. Maman, il paraît que tu es en train de cuisiner.
Ouais, je fais de la purée à l'archi-pommentier.
Ah, on dirait que ça sent bon.
Ah ouais, ça sent bon. Fais maison.
Ah, aujourd'hui, on est le 2 janvier. Et il paraît Alpha va manger chez vous.
Oui, Alpha, il va manger chez moi, oui.
Ok, maman. Et il paraît que vous habitez près de la jungle décalée avec des migrants.
Ouais, on habite un petit peu plus loin, mais bon, on habite dans la rue, ouais.
Bon, vous avez pas de problème avec les migrants?
Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va.
Ils vous dérangent pas avec leur vélo et tout?
Non, ça va, ils dérangent pas, là. Non,
ils
non.
Sont des gars sympas, gentils?
Ça, je peux pas.
Ok. Bon, on a vu maman. Aujourd'hui, on l'a visité chez elle. C'est Alpha. C'est maman Chantal. Bon, merci à maman de nous avoir accueillis sur la radio Djungala. Merci, maman.